en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Un grand jour de rien, de Béatrice Almagna, aux éditions Albin Michel. Nous y étions, pour la deuxième fois, ma mère et moi, dans la même maison de vacances, la même forêt et la même pluie. Chaque jour, ma mère écrivait en silence et moi, je tuais des martiens. Plus exactement, je pressais un bouton pendant des heures en pensant à mon père, à tout ce qu'il m'aurait montré dehors avec son sourire émerveillé. Encore une fois, ma mère grogna. « Mais arrête ce jeu! Tu vas de nouveau passer ta journée à ne rien faire ?»« Oui, voilà, je ne voulais rien faire. Rien, sauf tuer mes martiens. » Encore une fois, elle m'arracha le jeu des mains. Encore une fois, je le repris en cachette. Après quoi, je sortis. En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ce jardin, sous la pluie. Je serrai fort ma console. Pieds dans la boue, lunettes trempées, je mis le jeu dans ma poche pour qu'il ne se mouille pas. La pluie ruisselait dans mon cou. Je descendis la colline. Au fond du chemin, j'aperçus un étang pavé de rochers, ronds comme les têtes de mes martiens. Je voulus les écraser en sautant dessus, et soudain, plouf, mon jeu tomba dans l'eau. Non, 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 non! La pire tragédie du monde! Mais quel idiot! Tout de suite, je tentai de repêcher la console en plongeant ma main dans l'eau glacée. Cela me coupa le souffle. Et maintenant, qu'allais-je faire sans mon jeu? Les gouttes cognaient comme des pierres sur mon dos. J'étais un arbre, perdu dans la tempête. À ce moment-là, ils apparurent dans l'orage. 4 escargots géants sous la pluie. « Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici ?» leur demandai-je abattu. « Oh oui !» me dirent-ils. J'osais toucher leurs antennes, molles, comme de la gélatine. Du coup, j'empruntai un sentier. Et là, des dizaines de champignons me rappelèrent une odeur, celle de la cave de papy, où petit je cachais les choses précieuses. J'avais oublié. Ensuite, la terre se mit à briller, illuminée de trésors. J'enfonçai les doigts dedans. Et là, graines et granules, noyaux, grumeaux, racines et baies fourmillaient sous mes mains. Un monde souterrain plein de micro-choses inconnues. Je pouvais le toucher. Puis quelque chose m'aveugla. C'était les rayons de soleil qui tombaient maintenant à pic, comme dans une passoire géante. Je crus entendre des tambours au loin, mais c'était juste mon cœur. Je me mis à courir très vite, tellement vite que je tombais. Et là, une fois en bas, le monde était à l'envers. On aurait dit que tout avait été refait à neuf. Chaque chose me semblait inconnue. Alors, je décidai de grimper sur un arbre et de regarder au loin, de renifler l'air en gonflant mes poumons, de boire la pluie comme un animal, d'observer des insectes bizarres, de parler à un oiseau, de sauter dans une flaque en éclaboussant partout, de ramasser des cailloux lisses et transparents et d'y voir à travers le monde qui brillait. Pourquoi n'avais-je jamais fait ça auparavant ? Trempé jusqu'aux os, j'entrai dans la maison, me déshabillai en vitesse et courus me regarder dans la glace. Oh, j'y vis mon père et son sourire émerveillé. Ma mère écrivait toujours. Pour la première fois, on écoutait le même silence. « Bouh, tu es sale comme un petit cochon, viens de sécher !» Elle prit une serviette, m'emmena à la cuisine. Alors, j'eus envie de la serrer fort, de lui raconter tout ce que j'avais vu, senti, goûté, appris dehors. Mais on ne fit que se regarder et respirer l'odeur de notre chocolat chaud. Rien que ça, en ce magique, incroyable jour de rien.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Zélie, un album écrit par Christelle Valla à Alice Jeunesse. Comme tous les dimanches, Zélie se prépare. Elle regarde par la fenêtre. Oh, ils sont déjà nombreux. En file indienne, chacun attend son tour. Zélie s'installe sur son tabouret. Elle est prête. Le premier peut se présenter. Il se penche et chuchote à son oreille. Zélie écoute. Elle écoute les petits malheurs, les gros soucis, tout ce qu'on a à lui dire. Les gens se sont soulagés de leur peine. Ils repartent plus légers. En échange, ils offrent un petit poids à Zélie. Le petit Jules retourne sa poche. Son poids a disparu. Il fait demi-tour. Il gardera son chagrin. À la fin de la journée, Zélie met tous ses petits pois dans sa brouette. Demain, elle commencera sa tournée. Comme tous les lundis, Zélie traverse le village et s'arrête sur la place. Elle choisit quelques petits pois et souffle délicatement dessus. Et hop, de magnifiques ballons pour tous les enfants. Zélie poursuit son chemin. Oh, le pâtissier est dépité, sa fournée de biscuits est cramoisie. Qu'à cela ne tienne. Et hop, une douzaine de petits gâteaux au chocolat. Allez, Zélie, il faut y aller. La journée est encore longue. Sur la route caillouteuse, Zélie parcourt la campagne et hop, de belles pommes rouges sur le vieux pommier. Zélie continue à grimper. Elle regarde où elle met les pieds car la route est en mauvais état. Qu'est-ce que c'est ? Se demande Zélie. Elle s'approche. Oh ! Un petit pois ! Zélie l'examine de plus près. « Oh, c'est un chagrin d'enfant. Je les reconnaîtrai entre mille. » Zélie le glisse dans sa poche. Au sommet de la colline, le jardinier l'attend. « Bonjour Zélie. Alors, aujourd'hui, des tulipes, des pensées ou des pétunias ?» En réponse, Zélie prend une poignée de graines et les sème aux quatre vents. Et hop, de magnifiques fleurs éclosent dans le jardin. Mais il commence à se faire tard. Le ciel est tout noir. Zélie grimpe au sommet d'une grande échelle et accroche les lumières une par une. « Ah, voilà qui est mieux !» déclare Zélie faisant une révérence à Dame la Lune. Zélie est fatiguée. Sur le chemin du retour, elle sent le petit pois toujours là au fond de sa poche. Assis sur le bord de la route, Jules soupire tristement. Zélie lui fait un signe. « Que se passe-t-il ? » lui demande-t-elle. « J'ai perdu mon petit pois hier, répond Jules. Regarde, je viens de trouver celui-ci, sur la route. Les yeux de Jules s'éclairent. Oh, c'est bien son petit pois. Alors Zélie prend un joli pot, plante le petit pois dans la terre et Jules se met à l'arroser. Il n'y a plus qu'à attendre. Jules vient tous les jours. Il voudrait tant voir sa petite graine pousser. Parfois, Jules discute un moment avec Zélie. Parfois, Zélie lui offre un biscuit. Et le temps passe. Puis, un jour, une minuscule tige pointe le bout de son nez. Délicate et fragile, une petite fleur s'ouvre doucement. Jules arrive en courant. Il sourit. Zélie donne au petit Jules le joli pot. « Il est à toi, » lui dit-elle. Jules est heureux. Zélie est contente. Elle sait que le chagrin de Jules est enfin passé.
L'ombre du grand chêne, tiré d'un conte d'humour et de sagesse chinois, de Lydia Marine Ross, aux éditions Sarbacane. Il y a très longtemps, en Chine, vivait un marchand qui habitait une belle maison entourée d'un jardin. Sur le bord de la route, devant sa maison, poussait un grand chêne. Tous les après-midi, lorsqu'il avait fini de déjeuner, le marchand allait s'asseoir sur un banc à l'ombre du chêne. Un jour, le marchand trouva son voisin installé sous l'arbre en train de prendre le frais. « Que faites-vous là ? Allez-vous-en ! » cria le marchand. « Et pourquoi donc ? » répondit le voisin. « La route appartient à tout le monde ?»« La route, oui !» lança le marchand, « mais pas le chêne. Mon grand-père a planté cet arbre avant ma naissance. » Et j'en ai hérité en même temps que de la maison. Son ombre est à moi. Le voisin essaya sans succès de le raisonner. À la fin, il décida de lui donner une leçon et proposa de lui acheter la moitié de l'ombre. Le marchand accepta. Mais comme il n'aimait pas partager, il préféra vendre l'ombre entière du grand chêne. Ils se mirent d'accord sur un prix et le voisin obtint un contrat signé, faisant de lui le seul et unique propriétaire de l'ombre et lui permettant d'en user comme il l'entendait. Désormais, le voisin invita ses amis tous les après-midi à prendre le frais sous l'arbre. Au fil des heures, l'ombre du chêne s'allongeait sur la pelouse et entrait dans la maison. Et chaque fois, le voisin la suivait. « Mais que faites-vous ici ? » hurla le marchand en trouvant un jour le voisin et ses amis attablés dans sa cuisine. Le voisin lui montra son contrat. « Désolé, cher ami, mais l'ombre du chêne m'appartient. Et partout où elle ira, j'irai. » Le marchand dut contenir sa colère et fut obligé de supporter jusqu'au soir la présence chez lui de son voisin et de ses amis. Ainsi, dès que le soleil brillait, le voisin était là, installé au salon, dans la salle à manger ou dans la chambre des enfants. Il s'asseyait à table entre le marchand et sa femme, assistait à leur repas et prenait part à leur conversation. À l'heure de la sieste, lorsque l'ombre entrait par la fenêtre de leur chambre, il avait même l'audace de venir s'allonger entre le mari et sa femme. « J'espère que je ne vous dérange pas. » disait-il, ils se glissaient dans leur lit en bâillant. Le marchand exaspéré voulut racheter l'ombre du grand chêne. Il offrit au voisin le double et même le triple de la somme versée. Le voisin refusa de vendre, s'estimant très satisfait de son acquisition. À bout de patience, le marchand décida de porter plainte. Mais il ne put obtenir un jugement en sa faveur. Le voisin montra à la cour son contrat, faisant de lui le seul propriétaire de l'ombre. Le marchand fit alors accrocher des rideaux de velours à chaque fenêtre de sa maison. Il vivait maintenant dans la pénombre, ne laissant plus un seul rayon de lumière pénétrer chez lui, car celle-ci était bientôt suivie de l'ombre du chêne, elle-même accompagnée de l'impitoyable voisin. La femme et les enfants du marchand lui faisaient souvent des reproches. « Mais pourquoi n'as-tu pas laissé le voisin s'asseoir à côté de toi ?» lui disait-il. « Il y avait bien assez de place sous l'arbre pour contenter tout le monde. » Mais le marchand n'aimait pas partager. Un jour, la fille du marchand se fiança à un jeune homme de bonne famille. Le marchand envoya des dizaines d'invitations aux personnalités les plus importantes de la ville. Quand les invités arrivèrent, l'ombre du grand chêne franchit le mur de la maison. Et avec elle, apparurent le voisin et tous ses amis. Les invités furent étonnés de voir parmi eux des hommes en habits de tous les jours, riant, se promenant dans la maison comme si elle leur appartenait. « Mais qui sont ces gens ? » chuchotait-il intrigué. Lorsqu'ils apprirent que le marchand avait vendu l'ombre du chêne à son voisin, ils se moquèrent de lui. Et à compter de ce jour, le marchand devint la risée de la ville. Ne pouvant plus le supporter, il quitta bientôt sa maison et partit s'installer dans un pays étranger. Le voisin, lui, continua de venir s'asseoir chaque après-midi sous l'arbre. Les jours de grande chaleur, il invitait tous ceux qui passaient dans la rue à venir l'y rejoindre. « S'il y a de la place pour moi, » aimait-il à répéter, « il y a aussi de la place pour vous. »
Mademoiselle Zazie ne veut pas être hôtesse de l'air. Un texte de Thierry Lenain aux éditions Nathan. C'est lundi matin dans la classe de Zazie et la maîtresse est toute excitée. Elle dit « Dans une semaine, il sera là. » « Qui ça ?» demande Max. La maîtresse lui fait de gros yeux. « Qui ça ?» gronde-t-elle. « Mais l'écrivain, voyons !»« Ah oui, c'est vrai. Un écrivain va venir dans la classe. » Zazie trouve que c'est un écrivain qui écrit des histoires super nulles. Mais elle ne le dit pas fort, parce qu'à chaque fois que la maîtresse lit une histoire de l'écrivain, elle demande « Vous ne trouvez pas que cette histoire est vraiment formidable ?» Zazie se dit que si la maîtresse trouve formidable des histoires nulles, c'est sûrement parce qu'elle est un peu amoureuse de l'écrivain. Alors il vaut mieux se taire. « J'ai une idée !» reprend la maîtresse. « Nous allons faire une surprise à l'écrivain. Nous allons jouer une de ses histoires en théâtre. L'histoire de la tractopelle. » fait Zazie dans sa tête. « L'histoire du tractopelle, c'est l'histoire d'une hôtesse de l'air qui est amoureuse du conducteur du plus gros tractopelle du monde. Mais le conducteur ne fait jamais attention à elle. Alors un jour, l'hôtesse de l'air fait semblant de s'évanouir à côté du tractopelle. Du coup, le conducteur est obligé de la voir, sinon il l'écrase. » Quand il la voit, il tombe amoureux d'elle. Il la ramasse avec la pelle du tractopelle et il l'emmène à la mairie pour se marier. C'est vraiment nul comme histoire. Mais il y a quelque chose de pire. La maîtresse dit « Zazie, c'est toi qui vas jouer l'hôtesse de l'air. Pourquoi moi ?» s'étrangle Zazie. La maîtresse lui sourit. « Quand l'écrivain a su que Max et toi, vous étiez dans la classe, il a dit oh, « Quoi ? Les Max et Zazie qui sont dans les histoires de Mademoiselle Zazie ? J'ai tous leurs livres à la maison, j'adore !»« Alors, c'est sûr, Zazie, » conclut la maîtresse, « il sera très fier que tu joues son hôtesse de l'air. » »« Peut-être oui. » Sauf que Zazie n'a pas du tout envie d'être une hôtesse de l'air qu'on trimballe avec la pelle d'un tractopelle. Elle cherche quelque chose à toute vitesse dans sa tête. Ça y est, elle a trouvé. Elle s'écrie « Mais maîtresse, on n'arrivera jamais à faire entrer le plus grand tractopelle du monde dans la classe !»« J'ai tout prévu !» répond la maîtresse. On va remplacer le tractopelle par une brouette. Et Max sera le conducteur de la brouette. Ouah, super ! S'exclame Max. Ça lui plaît bien, à lui, cette idée de porter Zazie dans une brouette et de l'emmener comme ça à la mairie pour se marier avec elle. Et regardez ce que j'ai apporté, dit la maîtresse toute excitée en plongeant sa main dans un sac plastique. Elle sort deux déguisements. Un déguisement de conducteur de tractopelle et un déguisement d'hôtesse de l'air. Quand Zazie voit le costume, elle s'écrie « Jamais de la vie !» La maîtresse la regarde avec ses gros yeux et elle dit « Tu veux un zéro en lecture, Zazie ?» Non, la maîtresse n'est pas devenue méchante. Mais parfois, quand on veut plaire, on devient un peu idiot. Et c'est sûr, la maîtresse veut plaire à l'écrivain. Alors voilà, pendant une semaine, Max et Zazie répètent la pièce du tractopelle avec leur déguisement et la brouette. Et tous les jours, Zazie est obligée de faire semblant de s'évanouir pour ne pas avoir zéro en lecture. La maîtresse et Max sont super contents. Zazie est super en colère. Le dimanche, Max et Zazie sont dans la chambre de Zazie. Comme elle n'est pas dans la classe, Zazie pleure. Et ça, c'est très rare que Zazie pleure. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande Max tout déboussolé. Zazie lui explique qu'elle ne veut pas être hôtesse de l'air, même en déguisement, même en théâtre, même pour de faux. Et elle a bien le droit, non ?« Oui !» « Oui, tu as le droit, Zazie !» s'écrie Max. Et il ajoute « J'ai une idée. » Car ça sert aussi à ça, être amoureux, avoir de bonnes idées. Le lendemain, c'est le grand jour. La maîtresse s'est faite toute belle et elle sent le parfum. Elle est assise à côté de l'écrivain. Elle lui parle en rougissant. Max et Zazie sont allés s'habiller dans le couloir. « Attention !» Ça va commencer. La porte de la classe s'ouvre et Zazie apparaît. Elle est habillée en conductrice de tractopelle et elle pousse la brouette. Elle chante la chanson qui est dans le livre. « À conduire un tractopelle, je ne voudrais pas d'un autre métier. Non, non, la vie est belle, vive mon tractopelle. » Max entre alors à son tour. Il est habillé en hôte de l'air. Il regarde Zazie et dit « Comme elle est belle, la conductrice du tractopelle. Pourquoi ne me voit-elle jamais ?»« Ah, je sais. Je vais faire semblant de m'évanouir. » Et hop, il fait semblant de s'évanouir à côté de la brouette. Zazie le regarde et dit « Oh, mais qui est-ce ?» Je ne l'avais jamais vu. Oh, comme il est beau! Vite, il faut que je l'emmène à la mairie pour qu'on se marie. Elle met Max dans la brouette et hop, elle le transporte comme ça dans le couloir. Puis Max et Zazie reviennent saluer le public qui applaudit à tout rompre. L'écrivain applaudit à tout rompre aussi. Et la maîtresse aussi parce qu'elle trouve que c'est super comment Zazie et Max ont changé le texte. Elle trouve même que l'histoire est drôlement plus formidable comme ça. Alors elle dit à Zazie, « Ah, j'en suis sûre, quand tu seras grande, tu seras une sacrée conductrice de tractopelle. » Et Zazie répond, « Ou pas. »
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
« Moi devant » de Nadine Brincosme aux éditions Père Castor. Ils étaient trois. Léon, le grand, Max, le second, Rémi, le plus petit. Quand ils se promenaient, Léon, le grand, marchait toujours devant. Il adorait ça. Il disait « Regardez, les voitures !» Et les nuages, et les grands arbres qui se balancent. Derrière le grand dos de Léon, Max et Rémi ne voyaient rien. Ça leur était égal. Derrière ce grand dos, ils se sentaient bien. Ils marchaient en se tenant la main. Et Max racontait à Rémi des histoires de châteaux qu'il inventait. Au feu, Léon s'arrêtait, demandait « Attendez !» Puis, quand le feu passait au vert, il disait « Traversez !» Max et Rémi obéissaient, parce que Léon connaissait les dangers. Un matin, Léon dit « Oh, regardez le ballon, comme il est beau, comme il est grand !» Et pour la première fois, derrière le grand dos de Léon, Max eut envie de regarder. Il dit « Léon, je vois pas le ballon. Est-ce que je peux passer devant ?» Léon hésita, puis il dit « D'accord, à ton tour. » Et Rémi sentit que Max lâchait sa main. Devant, c'était bien. Devant, c'était nouveau. Pour la première fois, Max voyait les voitures et les nuages et les grands arbres et le ballon. Pour la première fois, il s'arrêta tout seul au feu. Pour la première fois, c'est lui qui annonça « Allez, vous pouvez traverser !» Et Max se sentit grand. Derrière, Léon et Rémi suivaient, sans se tenir la main, sans se raconter d'histoire. Un matin, Rémi en eut marre. Il dit « Oh, derrière, je m'ennuie, Léon ne me raconte rien !» « Est-ce que je peux passer devant ?»« D'accord, » dit Max. « Viens, devant, il y a le ballon. Tu verras comme il est grand. » Rémi passa devant. Il vit le ballon et les nuages et les grands arbres et les voitures qui roulaient vite. Au feu, il s'arrêta tout seul. Et tout seul, il dit « Allez, vous pouvez traverser. » Et il se sentit grand. Puis une voiture l'éclaboussa. Rémi était trempé jusqu'aux genoux. Il se sentit tout à coup très petit. Alors la main de Max attrapa la sienne. Et la voix de Max se mit à raconter la merveilleuse histoire du chevalier tout trempé et du ballon envolé. À nouveau, Rémi était bien. Si bien que pour la première fois, il se mit à chanter. Ils marchaient tous les deux devant en se tenant la main. Rémi qui chantait et Max qui racontait. « Attention !» cria soudain Léon. « Un camion !» Il fit un pas en avant, attrapa l'autre main de Rémi. Et pour la première fois, par hasard, il entendit l'histoire que Max racontait à Rémi. « Mais c'est drôlement beau !» souffla Léon. Et il resta devant. À présent, ils marchaient tous les trois devant. Léon qui prévenait des dangers et ordonnait de s'arrêter, Max, qui racontait tout ce qu'il voyait, et Rémi, au milieu, qui rêvait et qui chantait. Pour la première fois, Rémi tenait deux mains. Et c'était drôlement bien.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron ». Une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche en partenariat avec les radios du département, Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.